Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Clé des Ondes 90.10 à Bordeaux et la Clé des Ondes.fr. Notre site refonctionne, c'est formidable ça, on a été deux jours sans site internet, on était presque perdu. Bon, c'est le plat de résistance qui démarre comme tous les jours, du lundi au vendredi de midi à 14h et même quelquefois un peu plus. Et là, une nouveauté, histoire de voir, histoire au pluriel. C'est avec l'ami Jean-Pierre à partir de midi 10, juste après le journal de Radio France Internationale. À 13h, on aura l'émission à la tribune avec un documentaire sur le ventre de Paul qui nous fera retourner à la Première Guerre mondiale. C'est à retrouver dans ces deux heures d'infos et de musique. Tout de suite, RFI.
En Syrie, doivent notamment parler de la situation à Idlib, où l'accord de cessez-le-feu qu'ils avaient conclu en mars 2020 menace de voler en éclats. À la une également les États-Unis, où Joe Biden est confronté à deux grands défis d'ici demain soir: rassembler son camp pour faire voter les deux textes phares de son début de mandat, d'une part, faire en sorte que les républicains acceptent de relever le plafond de la dette pour éviter un nouveau shutdown, de l'autre, on va y revenir. Et puis côté foot, le PSG tient sans doute son match référence de ce début de saison. Les Parisiens ont battu avec la manière Manchester City hier soir au Parc des Princes en Ligue des Champions, score final 2-0. Ce sont les deux dirigeants les plus influents actuellement en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend à Sotchi pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, au programme des discussions, notamment la situation à Idlib, je vous le disais, dans le nord-ouest de la Syrie. Idlib où l'accord russo-turc signé en mars 2020 semble de plus en plus précaire. Alors que la Russie, principale alliée de Damas, a multiplié les frappes dans la région ces derniers jours, Ankara y a déployé de nouveaux soldats ainsi que du matériel militaire. Précision de la correspondante de RFI à Istanbul, Anand Lohar.
Signe de l'importance que Recep Tayyip Erdogan accorde à cette visite, les médias proches du pouvoir en parlent depuis plusieurs jours. Le président turc a demandé à Vladimir Poutine un entretien en tête-à-tête pour aboutir, je le cite, à une décision importante dans les relations turco-russes. Sa priorité est d'empêcher une escalade à Idlib, dernière province qui résiste encore au régime de Damas, car une offensive précipiterait vers la frontière turque des centaines de milliers de réfugiés. Ankara a renforcé ces dernières semaines ses bases militaires dans l'enclave où sont déployés des milliers de soldats. La Russie, de son côté, reproche à la Turquie de ne pas assurer le départ des groupes d'opposition implantés à Idlib, notamment du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Tayyip Erdogan, qui a pris l'habitude de jouer les équilibristes entre la Russie et les États-Unis, ne se rend pas à Sotchi en position de force. Il a reconnu la semaine dernière que les relations avaient mal commencé avec le président américain Joe Biden. Il a même dit pour la première fois vouloir acheter à la Russie un deuxième lot de missiles S-400, tout en sachant qu'une telle décision exposerait la Turquie à de nouvelles sanctions américaines. Anand Lohar, Istanbul, RFI.
Alors qu'aux États-Unis, la hiérarchie militaire va continuer aujourd'hui de tenter d'expliquer au Congrès le fiasco de son retrait de Kaboul il y a un mois. Les Afghans, eux, plongent chaque jour un peu plus dans la misère depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. En cause, une pénurie de liquidité, comme le montrent ces files ininterrompues d'Afghans qui font quotidiennement la queue devant les banques du pays avec l'espoir de pouvoir retirer quelques billets. Illustration tout de suite avec ce reportage à Kaboul. Il est signé Sonia Ghezali.
Devant la banque Azizi, Mohamed Aslam compte sa liasse de billets de 500 afghanis.
16 000. Je viens enfin de retirer de l'argent après 25 heures d'attente. Je suis venu hier matin à 5 heures pour donner ma carte bancaire et j'ai récupéré mon argent à 18 heures aujourd'hui. J'ai pu retirer 20 000 afghanis, ce n'est pas assez. La vie est très dure, certains viennent des provinces juste pour retirer des sous. Je demande à l'émirat islamique de régler ce problème.
Les retraits sont limités à l'équivalent de 190 euros par semaine car il n'y a plus assez de cash en Afghanistan.
Avec cet argent, je vais rembourser toutes mes dettes dans les magasins qui m'ont fait crédit pour que je puisse nourrir ma famille. Il ne me restera que 3000 afghanis après ça.
Soit environ 30 euros. Les files d'attente se forment dès le milieu de la nuit devant les banques. Certains dorment sur place.
Je veux retirer tout mon argent. Je viens tous les jours. Je ne fais que ça parce que je veux tout récupérer. Tout le monde a peur de perdre son argent. La banque de Kaboul a fait banqueroute il y a quelques années et tous les clients avaient perdu leur argent.
Cet ancien soldat de l'armée afghane, comme la majorité des fonctionnaires de l'ancien gouvernement, n'a pas été payé depuis 3 mois. Il n'a plus que ses maigres économies en banque pour survivre. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Au Japon, le tout-puissant parti au pouvoir, le Parti libéral démocrate, a un nouveau patron, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Fumio Kishida, a été élu à sa tête tout à l'heure. Comme le prévoit la règle dans le pays, c'est lui qui deviendra Premier ministre la semaine prochaine. Ce sera à l'issue d'un vote au Parlement, largement contrôlé par le PLD, devenu très impopulaire en raison de sa gestion controversée de la pandémie de Covid. Le chef du gouvernement sortant, Yoshihide Suga, avait décidé de ne pas se présenter à l'élection. Aux États-Unis, Joe Biden n'ira pas à Chicago aujourd'hui. Le président américain a annulé son déplacement à la dernière minute pour rester à Washington, où il doit faire aboutir deux grands chantiers d'ici demain soir. D'abord, réconcilier son propre camp pour permettre le vote au Congrès des deux principaux textes de son début de mandat, à savoir celui consacré à la rénovation des infrastructures américaines, d'une part, celui qui porte sur d'importantes dépenses sociales, de l'autre, le montant total des deux plans avoisine les 5000 milliards de dollars. Un défi auquel se greffe aussi celui de la perspective d'un nouveau shutdown dans les prochaines semaines, un nouveau défaut de paiement de l'administration centrale si aucun accord n'est trouvé entre démocrates et républicains sur un relèvement du plafond de la dette. C'est un moment clé pour le chef de l'opposition britannique qui peine à s'affirmer face à Boris Johnson au Royaume-Uni, à la tête du Parti travailliste depuis un an et demi. Keir Starmer va pour la première fois s'adresser à ses troupes aujourd'hui lors du congrès de rentrée du Labour à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Le successeur de Jeremy Corbyn n'avait jamais pu le faire avant en raison de la crise sanitaire. Son discours censé clarifier sa vision pour le pays sera donc très scruté tout à l'heure. L'actualité en France, on y vient, c'est notamment le procès des attentats du 13 novembre qui se poursuit depuis hier. L'heure est au témoignage des parties civiles, à commencer par celle qui était au Stade de France lors des trois attaques kamikazes qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Ce mardi, la Cour a notamment entendu Walid I, un Égyptien de 33 ans, grièvement blessé lors de l'explosion du deuxième kamikaze devant la porte H du stade. Compte rendu d'audience, Laura Martel.
Il porte encore en lui 3 des 15 écrous qui ont percé son corps. D'emblée, Walid s'excuse de témoigner en français et précise « La langue arabe est la seule chose que j'ai en commun avec les accusés ». Ce 13 novembre, il décide à la dernière minute d'aller voir le match après avoir reçu dans la journée un mauvais pronostic pour son frère, atteint d'un cancer et qui décédera 6 mois plus tard. En retard, il court vers le stade et le voilà soudain « soulevé de terre », dit-il. Le deuxième kamikaze s'est fait exploser à son passage. Walid rouvre les yeux pour découvrir sa jambe droite séparée de son corps. 8 jours de coma plus tard, ce sont des douleurs intenses qui l'attendent au réveil. Pour essayer de donner une idée de leur ampleur, le trentenaire raconte sans emphase ses plus de 3 ans de traitement, dont 145 jours de soins intensifs, les perfusions parfois à vif et les innombrables interventions, dont la dernière, un échec, l'oblige à vivre un an, le ventre ouvert, avec une poche pour les besoins. Mais au-delà du sifflement qui hante durablement ses oreilles et ses cauchemars, de ses espoirs abandonnés, de fonder une famille, de sa vie professionnelle anéantie, au-delà même du fait qu'il ait été un temps présenté comme suspect, après la découverte de son passeport près du corps du terroriste, Walid se dit surtout révolté de s'être fait voler les derniers moments de vie de son frère. Sans un regard pour les accusés, il conclut « En Égypte, on connaît les terroristes, ils tuent sans distinction et moi j'en suis sûr, ils vont recommencer ».
Les explications de Laura Martel sur RFI. Le foot, c'est la joie des supporters parisiens après la victoire du PSG 2-0 hier soir au Parc des Princes contre Manchester City. C'était dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, un match fondateur pour le club de la capitale au cours duquel Lionel Messi, sa star arrivée cet été, a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Allez, on termine avec un film très attendu sur les écrans britanniques à partir de demain jeudi. Les dernières aventures du plus connu des espions de Sa Majesté. Mourir peut attendre. Le dernier James Bond, dont la sortie a été maintes fois repoussée à cause de la pandémie de Covid. À Londres, certains chanceux ont toutefois eu le privilège de voir le film en avant-première. C'était hier soir au Royal Albert Hall. Alors qu'en ont-ils pensé? Marie Boueda, la correspondante de RFI dans la capitale britannique, est partie à leur rencontre après la séance. Voici son reportage.
Un vrai temps londonien pour cette première de James Bond. À 22h30, une foule sort du théâtre, habillée en robe de soirée et costume de papillon. Il pleut des cordes, Jennifer se cache sous son parapluie, il fait un peu froid mais peu importe, elle est ravie.
Je suis une énorme fan de James Bond, j'ai aimé chaque moment du film, je trouve que c'était génial.
Juste à côté, son ami Harry est plus mesuré.
C'est très Bond, on retrouve beaucoup d'éléments des autres James Bond. C'était un peu long, donc moins agréable, mais c'était aussi drôle que d'habitude.
Quant à Phoebe, c'est la première fois qu'elle voit un film au cinéma depuis la pandémie, elle compte bien y retourner désormais, même si on la sent déjà nostalgique de Daniel Craig.
C'est le dernier pour Daniel, je pense qu'il était superbe. C'était absolument super. Il y avait beaucoup plus de sentiments.
Et qui pour incarner le plus célèbre des agents des services secrets britanniques? L'un des spectateurs a une idée.
Le prochain James Bond? Moi, bien sûr. Regardez-moi, je suis magnifique.
Marie Boéda, Londres, RFI.
Voilà, le dernier James Bond, Mourir peut attendre, dans lequel, vous l'avez compris, Daniel Craig incarne pour la dernière fois 007 pour voir le film en France. Encore un peu de patience, sa sortie est prévue mercredi prochain, le 6 octobre. RFI, midi 10 dans quelques secondes ici à Paris, c'est la fin de cette édition.
C'est la première, non, c'est pas tout à fait la première, c'est le numéro zéro, c'est un bon dessert, on va dire, de Histoire de voir. Trois petits points, histoire au pluriel, et ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est sur la clé des ondes. Et tous les mercredis, de 12h10 à 13h, on espère vous retrouver, vous intéresser à l'histoire, mais pas la grande, seulement la grande histoire, celle que vous vivez les uns les autres. Et pour le partager, eh bien, aujourd'hui, il y a Sandra Aymar qui est là. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Il y a Pierre qui vient pour plusieurs casquettes. Hein. Il nous en parlera tout à l'heure. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Patrick Politis.
Bonjour.
Pierre-Roger Bacambo, que vous connaissez pour certains, ami de longue date.
Ah ben oui, chocolat, mais bonjour à tout le monde, je suis là, avec vous.
Accompagné de Caroline qui nous parlera musique tout à l'heure.
Bonjour.
Et puis Gérard du guide du Bordeaux colonial qui est là.
Bonjour.
Et qui est toujours là. Et ben merci à tous d'être venus. Vous écoutez une très jolie musique, c'est celle de Jacques Loussier. On en parlera dans une autre émission. Voilà, donc notre émission s'est décidée, en fin de compte, après le colloque que nous avons tenu et organisé avec Pierre, soutenu par la Clé des Ondes et de nombreuses autres associations. Hein, c'est ce colloque qu'on a eu une fenêtre d'ouverture le 11 et 12 juin 2021. Donc, l'idée nous est venue de continuer, en fait, ce travail que nous avions fait sur ces révoltes populaires et puis de vous en faire profiter sur la Clé des Ondes tous les mercredis de 12h10 à 13h et avec des témoignages sur des moments très forts. Alors Pierre nous en parlera tout à l'heure, mais il y a l'idée d'un livre qui va aboutir d'ici la fin de l'année, donc c'est un autre comment dire, challenge, comme on dit chez les Américains. Et nous, on va faire tout pour qu'on promouvoir ce bouquin qui verra, sera aussi à même de pouvoir alimenter cette émission. Alors, donc l'émission, on invitera bien sûr des historiens, des écrivains, des militants sur l'histoire de ces révoltes populaires. Et surtout aussi, on parlera du mouvement social actuel, puisqu'il est irrigué par ces expériences, des fois oubliées, mais qu'il est bon de rappeler dans l'émission. Alors, une chose qui nous avait interpellés, c'était de dire que l'histoire, elle est faite par ceux d'en bas et elle est écrite par ceux d'en haut. Voilà, c'est un peu ça qu'on voudrait tordre comme cliché. Alors, on vient d'être rejoint par Abdulrahman Khalouf, enchanté, qui nous fait la joie de participer. On lui donnera la parole tout à l'heure. Alors, beaucoup de monde dans le studio, rassurez-vous, les bonnettes sont de sortie. On fait très attention, même si on est très nombreux. Voilà, donc je vais beaucoup parler, mais je voulais quand même citer Antonio Gramsci qui disait cette phrase bien connue. Il avait écrit dans son livre « Cahier de prison » en 1938, puisqu'il était en prison par le régime fasciste de l'époque. « La crise, puisque nous la traversons depuis très longtemps, consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant ces interrègnes, on observe des phénomènes morbides les plus variés. Et donc, la phrase qui en ressort, c'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Donc c'est aussi pour ça que cette émission a lieu et qu'elle nous réunit aujourd'hui, c'est pour les combattre, ces monstres, apporter des témoignages, des arguments pour essayer eh bien de les contrer et puis de combattre le logiciel de ceux qui défendent l'ordre établi, n'importe quel ordre, et qui empêchent au nouveau monde d'émerger. Hein. Alors, cette parole que nous prenons, bah, nous vous allons la transmettre à des groupes, des gens, des citoyens qui résistent et qui n'attendent pas forcément le grand soir pour agir. Et que cette émission, bah, c'est la vôtre et qu'on espère pouvoir vous accueillir. Déjà, si vous pouviez nous retrouver régulièrement, ça nous encouragerait beaucoup. Voilà, petit jingle.
Histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voix, histoire au pluriel.
Le fil conducteur de l'émission pour ce dernier trimestre 2021 s'articule autour des actes du colloque que nous avons organisé le 11 et 12 juin sur ces révoltes populaires. Je le disais, il y a donc l'émission là, de radio que vous écoutez aujourd'hui. Et puis il y a le livre dont nous parlera Pierre tout à l'heure, qui est sont les actes du colloque, qui devrait sortir à la fin de l'année. Donc on va accompagner dans la partie de l'émission, une partie importante de l'émission, ce travail qui a été fait. Et puis il y aura d'autres rendez-vous à l'intérieur de l'émission. Donc la culture, bah, c'est la base de l'éducation populaire pour nous, et elle fait donc référence à cette éducation populaire, et de nombreux créateurs, artistes, écrivains donc seront les bienvenus lors de cette émission. Tout à l'heure, Pierre-Roger citait le clown chocolat.
Exactement. Et puis bon, avec tous les artistes qu'on connaît, petit à petit, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse parler de vos activités et la force que vous pouvez nous amener aussi, quoi, en fait.
Ben merci Pierre-Roger, puis surtout qu'il y a d'autres propositions qui arrivent, mais il est un peu trop tôt pour en parler. Je situais tout à l'heure Abdulrahman qui est arrivé, qui nous a rejoint, et il y a aussi une émission qui lui sera consacrée, puisqu'il prépare un nouveau spectacle pour janvier, donc on a un peu de temps, mais entre-temps il nous parlera d'autres choses, mais je ne veux pas déflorer le sujet pour l'instant, je l'interrogerai tout à l'heure. Donc vous voyez, donc la culture est vraiment... est vraiment présente pour nous. Bien sûr, l'actualité aussi qui est présente, et je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup. On y reviendra. Je vais surtout me tourner vers mes amis qui sont ici présents. Et puis, entre-temps, vous faire un petit peu de détente des oreilles avec de la musique.
Thank you.
Eh bien, merci. Cette belle musique, je pense que Caroline et puis Pierre-Roger vont nous en parler.
Tout à fait, tout à fait. Je laisse la parole au...
Alors, que dire on a donné un nom à la musique sur le chemin, en arrivant. On l'a appelé Shy On. Shy pour timide en anglais. On pour, voilà, on appuie sur le bouton et on joue la musique. Sachant que le compositeur, c'est mon petit frère, qui s'appelle Singto. Et qui est très timide en soi, très réservé. Ouais, plus réservé que timide, mais c'est quelqu'un qui se fait discret. C'est pour ça qu'on a donné ce joli nom. Je trouve que ça résonne bien. Hein.
Merci beaucoup.
Shy On, Lion, Zion. C'était le gimmick avant d'arriver ici. Singto, ça veut dire le grand lion en thaïlandais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Merci. Merci à vous deux.
Oh, normal.
Voilà, donc une petite surprise, une sélection après, à la fin de l'émission que tu nous as réservée aussi, on te remercie. Voilà, donc je me tourne maintenant vers mes invités, parce que j'ai beaucoup parlé et je vais me taire un peu et je me tourne vers la première parce qu'elle est face à moi, c'est Sandra, que les auditeurs de la Clé des Ondes connaissent. Qui vient nous dire ce qu'elle va faire dans l'émission dans un premier temps.
Alors, dans un premier temps, on a parlé d'une chronique. Je faisais des chroniques, pardon, il y a quelques années déjà, pour l'émission Acétone. Et puis là, je recommence à faire une petite chronique. Ça fait deux, là. J'en ai fait une là, dernièrement. Donc, avec plaisir, hein, pour une petite chronique, en alternance avec, tu m'as dit...
Avec Jean-Michel, voilà, qui viendra aussi nous faire une chronique, donc une fois tous les 15 jours. Mais bon, ça, c'est un rendez-vous régulier avec toi, mais bien sûr que tu pourras t'exprimer dans tout le reste de l'émission. Merci beaucoup, Sandra, de ta confiance. Maintenant, je me tourne vers Pierre Robin, qui va nous dire en quelques mots qu'il m'a accompagné dans le cadre de ce colloque, enfin qu'il nous a accompagné, et qui est un personnage clé, en fait, de ce colloque, notamment pour la suite à donner.
Oui, Jean-Pierre a rappelé que ce colloque donc, s'est déroulé en juin au Musée d'Aquitaine, et on peut considérer que c'est une réussite, autant avec le public qui était là, avec la participation, et surtout dans la période où effectivement les conditions sanitaires étaient un peu rigoureuses, et aussi parce que il y a eu une participation très importante de chercheurs sur le thème des révoltes populaires. En tout, ça fait à peu près entre 25 et 27 intervenants, ce qui est énorme pour un colloque, donc un intérêt évident pour ce sujet-là. Alors, bien sûr, dans la continuation, pour prolonger ce travail et ce résultat, qui a été donc très, très réussi, nous avons pensé, évidemment, comme ça se fait habituellement d'ailleurs pour des colloques, lancer l'édition des actes du colloque. Alors, les actes du colloque, ça consiste bien sûr à recueillir les écrits, parce que bon, c'était donc des interventions orales qui étaient un peu limitées dans le temps d'ailleurs. Donc. Et on a donc demandé aux différents intervenants, aux différents conférenciers, d'écrire leur intervention en prolongeant souvent leur réflexion et en apportant des éléments qu'ils n'avaient pas pu dire forcément à l'oral. Donc, c'est une richesse très importante et une très grande diversité. Parce que le colloque a balayé toutes les étapes de l'histoire, toutes les périodes de l'histoire. Et c'est donc une présentation chronologique des révoltes populaires qui commencent donc dans les révoltes des paysans, des croquants au 15e et 16e siècle, qui se prolongent bien sûr par les grandes grèves, la naissance du syndicalisme, les grèves ouvrières du début du 20e siècle et les grands événements sociaux qui ont traversé toute la période historique. Et on balaye tout ça et on arrive en fin de compte à la période la plus actuelle, la plus contemporaine, avec les Gilets jaunes. Mmh. Voilà. Donc, il y a eu deux interventions extrêmement intéressantes très, très différentes, mais qui se complètent hein, sur la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de cette lutte toute récente. Voilà. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, le livre sortira en principe au début du mois de décembre.
Après, le 1er décembre, c'est un pari. On vous tiendra au courant et informé parce que c'est une course contre la montre. Et puis, on n'est pas les seuls. Il y a un imprimeur, il y a des articles qui sont revenus, mais à corriger encore. Ce qu'a oublié de dire Pierre, c'est qu'il est central dans cette disposition de radio parce qu'il travaille aussi pour le Métron. Donc s'il veut nous en dire deux mots.
Oui, deux mots sur le Métron, on ne peut pas être trop long. Hein. Bon, le Métron, c'est... le Métron, d'abord, c'est un homme hein, Jean Métron, qui a eu l'idée, il y a un certain nombre d'années, de créer un dictionnaire, un dictionnaire biographique de tous ceux qui se sont engagés dans la lutte sociale, qui ont été des militants, alors que ce soit des militants syndicalistes, des militants politiques, des militants des luttes sociales, et donc de faire un recensement extrêmement complet de tous ceux qui ont joué un rôle dans cette histoire sociale, politique, économique. Hein. Donc ça remonte au 19e siècle.
Je crois même que ça commence à la Révolution française.
Ça commence à la Révolution française. Ça se prolonge bien sûr avec le 19e siècle, avec les luttes du 19e siècle. Et aujourd'hui, on arrive à la période la plus contemporaine. Et le Métron aujourd'hui, les animateurs du Métron ont décidé de s'intéresser à la génération qui arrive aujourd'hui dans les années 60 ans, génération de 68, qui est aujourd'hui les principaux animateurs et les principaux militants de cette période, ont entre 65 et 70 ans. Donc il est temps.
Même un petit peu plus.
Même un petit peu plus pour certains.
On ne donnera pas de nom.
Voilà.
Non.
Donc il est. Donc il est temps de recueillir, et on peut le faire encore, hein, de recueillir cette mémoire, de recueillir les témoignages de ces différents militants pour publier ensuite dans le Métron.
Comme on n'est pas avare de bons mots, on invitera les personnes que l'on interviewe dans ces fiches hein,
voilà,
pour leur donner la parole, parce qu'ils sont toujours là, hein,
voilà.
Toujours bien là pour beaucoup d'entre eux, mais c'est vrai que certains commencent à décliner sérieusement.
Il est, effectivement, c'est impératif aujourd'hui de leur donner la parole et de permettre effectivement que cette mémoire se perdure,
exactement.
Ne disparaisse pas.
Voilà. Génération. Bah, merci beaucoup, Pierre. La parole est à la Défense, c'est-à-dire à Patrick. Patrick qui est à la fois là pour Politis, mais alors en plus, figurez-vous qu'il est un peu écolo. Et qu'il est très satisfait de la nouvelle candidature, dont je plaisante.
Oui, mais tu as le droit de plaisanter, puisque c'est toi qui anime. Donc,
Alors, c'est un vieux de la vieille, hein, parce qu'il a fait pas mal d'émissions à la Clé des Ondes. Et donc, je voulais dire qu'il est sur Greenpeace. Hein, bien sûr, tu interviens aussi sur Greenpeace. Quoi. Patrick.
Oui, en fait, au jour d'aujourd'hui, évidemment, j'interviens pour l'hebdomadaire Politis, que tous les auditeurs, je pense, de la Clé des Ondes connaissent un peu ou un peu plus. Voilà, donc Politis qui sort tous les jeudis. Donc, en fait, pour l'instant, malheureusement, pour des raisons de certaines difficultés financières, ce qui vous étonnera pas s'agissant d'un hebdo qui se proclame libre, indépendant et sans trust du style certains de nos amis, n'est-ce pas, derrière pour le soutenir. Pour l'instant, il est uniquement vendu sur le site internet, donc en fichier, voilà. Donc Politis, c'est l'occasion, bien sûr, puisque cette émission, comme tu l'indiques, Jean-Pierre, c'est histoire de voir. Et bien, dans le numéro de cette semaine, je fais un petit bond hein, entre l'histoire sociale récente. En l'occurrence, Politis consacre un article au nouveau Antifa, c'est-à-dire les jeunes qui mènent la lutte antifasciste, en ciblant sur le mouvement qui s'appelle la Jeune Garde. Et cette enquête montre que la Jeune Garde, par rapport à l'ancienne, je dirais, militance antifasciste, a à la fois l'idée de maintenir la présence dans la rue, hein, pour s'opposer évidemment aux menées antifascistes que nous connaissons, mais également de s'exposer dans les médias. Et l'idée, c'était d'aller voir les trois porte-parole de cette organisation, et notamment avec une déclinaison aussi un peu féministe, puisque l'une des trois paroles, c'est une jeune femme qui s'appelle Maya, et qui met en évidence que, bon, elle était déjà dans la lutte, je dirais, féministe, mais qu'il lui semblait qu'il manquait une petite pierre à sa lutte. C'est la raison pour laquelle elle a rejoint donc ce mouvement, la Jeune Garde, qui fait l'objet, donc, entre autres, donc, de cette enquête de 4 pages dans le numéro Politis qui sera en ligne donc demain matin.
Voilà, donc vous faites politis.fr, je suppose.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc Patrick nous a proposé, à ma demande, je rigole, puisqu'il a participé aussi au colloque, hein, c'est comme ça qu'on s'est apprécié et connu, hein, il a couvert avec des photos, en faisant de la pub du colloque, hein, de venir faire une rubrique qui commenterait un peu l'actualité, alors bien sûr d'Aquitaine, mais pas uniquement, qui peut aller même au niveau international, parce que les révoltes populaires, elles ont lieu un peu partout, et c'est vrai qu'il y a des journalistes à Politis qui peuvent bien sûr nous aider à comprendre ce qui se passe et comment ça se passe, quoi.
Et alors, si tu me permets, Jean-Pierre, encore une minute trente, quoi, un petit clin d'œil à tous les participants ici autour de toi, puisque également dans Politis, il y a aussi une page consacrée à l'histoire, intitulée « L'histoire n'est pas un roman », et qui est très souvent écrite, là, en l'occurrence encore dans ce numéro-là, par Mathilde Larère, que pas mal de gens connaissent quand même, qui est une enseignante-chercheur donc assez connue dans le milieu social. Et donc je vais vous poser une question. Donc, en calendrier républicain, puisque notre ami Pierre, évidemment, parlait des révoltes populaires, et évidemment, ce n'est pas la seule, mais quand même la Révolution française est quand même une date quand même extrêmement iconique, je dirais. Donc, en calendrier républicain, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 septembre, comme vous le savez tous. Donc, en calendrier républicain, donnez-moi la date donc qui nous réunit aujourd'hui.
Ah bah, je vais regarder.
Alors, je fais le malin parce que j'ai la réponse sous les yeux. Non, mais je vous le dis en toute transparence. Toi, tu copies pas, Jean-Roger. Hein.
Non.
Moi, je vais regarder sur Google, parce qu'il y a un calendrier.
Moi, je vais en profiter. Je vais en profiter pour souhaiter l'anniversaire à la sœur de Caroline qui est née aujourd'hui. En tout cas, j'ai cherché à regarder, mais je vois pas, quoi.
Ou alors, en fait, donc, Mathilde Larère rappelle que le 22 septembre 1792, ça a été l'acte 1 de la République. Et donc, c'est à partir de cette date-là que sont datés tous les actes officiels. Et que le calendrier républicain est intervenu, en fait, quelques jours après. Et donc, elle fête vraiment cet événement en indiquant que donc, le 22 septembre, nous étions le premier Vendémiaire en 230. Ce qui vous étonnera pas, hein, voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 8 Vendémiaire en 230.
Très bien. Voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, franchement. Voilà. Ça nous manquait un peu. Et merci pour Patrick, c'est très intéressant. Alors, je me tourne là. Abdoullah, tu veux prendre la parole? Eh bien, voilà, viens. Voilà, donc on a passé le micro, là, en fait. Alors voilà, donc Abdourahmane, je t'ai rencontré par l'intermédiaire de Florent Viguier, qui est professeur de français et qui est aussi écrivain, auteur de pièces de théâtre, et qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Abdourahmane parce qu'il t'aime bien aussi, t'inquiète pas. Et tu es actuellement en résidence au lycée Gustave Eiffel.
À Bordeaux. Oui. C'est une résidence d'écriture et de sensibilisation. Donc, je dois mener à peu près 70 heures de travail avec les élèves. Nous allons travailler sur le thème de l'altérité. Et l'idée, c'est de sortir à la fin un recueil de textes qui va être présenté à la fin de l'année de ce travail avec les élèves, qui doit être en fait porté en 5 séances. Donc, j'essaie de travailler avec eux pour répondre à des questions qui peuvent un peu bousculer nos certitudes, nos visions, dont à travers des exercices d'écriture, par exemple, comme vous vous trouvez avec une femme voilée, enfermée dans un ascenseur. Pendant 5 heures, il n'y a pas de secours. Qu'est-ce qu'il arrive? Donc, c'est l'idée de présenter des situations comme ça improbables, mais qui peut pousser les élèves à réfléchir leur situation, leurs conditions sociales. Par exemple, la France est devenue un pays invivable, on ne sait pas pourquoi. Donc, je demande aux élèves de me faire ce scénario. Et s'ils veulent partir, c'est vers quel pays ils vont se diriger et quelles sont les raisons et quels objets peuvent prendre avec eux, même si c'est des objets qui ne sont pas essentiels à leur survie, mais qui ont une valeur affective forte. C'est l'idée de permettre à travers l'écriture de s'identifier à d'autres personnages. Et puis, que pour moi, la finalité de travail artistique, c'est de pouvoir avoir cette compassion. On peut dire ça sans un peu religieux, mais quand même j'aime bien ce mot, c'est pouvoir en fait entrer en empathie avec la souffrance d'autrui. Donc à travers la grande thème de l'altérité, on va travailler sur ça. Et au même temps, moi aussi je suis dans l'obligation de présenter, bon c'est une belle obligation, je l'aime beaucoup, de présenter un texte à la fin de cette résidence. Et ce texte aussi en partenariat avec un éditeur de la région qui se transformera en un texte de théâtre. Donc je suis en train de travailler sur une petite idée comme ça, et puis j'essaie d'avancer sur l'écriture au même rythme de travail que je vais mener avec les élèves. Donc elle n'est pas encore tout à fait prête.
Alors ce qui, merci Abdelrahman, c'est intéressant, c'est de savoir, je le dis parce que tu ne l'as pas dit, tu es franco-syrien, tu es arrivé en 2002 en France,
oui.
et que tu as un parcours, tu es diplômé de l'Institut supérieur des arts dramatiques de Damas, tu as un parcours, parce que tu as déjà fait des mises en scène, notamment une mise en scène de Florent Viguier correspond tout à fait à la définition de ce que tu fais justement de l'altérité et du rapport à l'autre, puisque cette pièce de théâtre ça s'appelle La main tendue qui parle. Alors pour nos auditeurs, ils doivent savoir que la main tendue c'est celle d'Antoine qui a eu la main arrachée lors des manifs de Gilets jaunes, et c'est une pièce de théâtre que tu as mise en scène.
Oui, tout à fait. En 2020, en fait, la première sortie de résidence était au théâtre Miette à Bègles. Et donc, on a joué une semaine, on a eu une série de représentations, 5 tout public et 4 pour un public scolaire exclusivement. Et ce texte, en fait, c'est le témoignage d'Antoine Boudinet que Florent Viguier a recueilli. Et à un moment, donc, on se connaît avant avec Florent, on est amis. Et j'étais vraiment touché par ce texte qui est maintenant édité, qui est sorti à Par ailleurs édition à Périgueux cette année, il y a quelques mois récemment. Et on était dans notre élan au mois de janvier 2020. Et après, il y a eu le confinement et toute la crise sanitaire qui nous a coupés. Et là maintenant, je suis content qu'on va reprendre au théâtre Le Pont Tournant à Bacalan de 8 ou 11 décembre à 20h30. Et bien sûr, il y aura une rencontre avec Antoine Boudinet. Et ce texte, en fait, c'est une conférence, on peut appeler ça une conférence théâtralisée, puisque à travers le texte, on essaye quand même de comprendre, c'est pas seulement l'action dramatique de la mutilation, c'est l'idée de comprendre, en fait, comment peut-on arriver à ce stade de violence. Et je me suis reconnu dans le texte, puisque nous, en Syrie, depuis 2011, on est dans ces problématiques. Donc, il ne faut pas oublier que le tout début de la Syrie, c'était pas des morts, c'était comme ça, c'était des mains arrachées, ouais. Des yeux crevés. Et petit à petit, en fait, ce qui est arrivé, c'est le niveau de violence a augmenté énormément et brusquement en Syrie. En 2012, quand le régime a décidé à un point de rupture, c'est d'aller jusqu'au bout dans sa démarche militaire. Mais après, c'est-à-dire avoir les mêmes choses se passer ici en France, dans un pays où moi je suis parti en 2002, c'est-à-dire ça faisait presque 20 ans, et en croyant vraiment à l'idéal européen, à l'idéal français, à voir des choses comme ça, quand même c'était quelque chose qui me travaillait vraiment énormément. Et quand j'ai rencontré le texte, ça m'a parlé tout de suite. Et même dans la mise en scène, donc je ne veux pas divulguer parce que j'aimerais bien que les gens viennent voir, mais dans la mise en scène, donc il y a eu un passage où j'ai fait un rapprochement comme ça visuel avec la Syrie et c'était à chaque fois troublant, c'était à chaque fois un sujet comme ça à débattre, mais c'était pour moi justifié et nécessaire puisque la démarche est la même. C'est une révolte populaire et qu'on veut réprimer à tout prix. Et on est prêt à ça pour ça, pour, pardon, à employer les enfants du pays les uns contre les autres, en appelant les uns force de l'autre et les autres des casseurs. Et ce sont vraiment juste des batailles sémantiques, mais qui vont arriver à des victimes réelles et qui vont briser des vraies vies.
Alors, donc, inutile de dire qu'on va poursuivre notre entretien, nos dialogues, hein, c'est, la porte est ouverte. Et il faut dire aussi que j'ai croisé Antoine Boudinet, comme par hasard, dans une manifestation, là, justement, après l'expulsion du Kabako, et qui est tout à fait partant pour accompagner aussi à la fois notre émission de radio et puis la pièce. Et comme le rappelait tout à l'heure Pierre Robin, c'est que nous aurons la sortie de notre livre qui début décembre, et il est évident que nous serons ouverts à toute une discussion aussi nous-mêmes. Donc il y a des synergies qui peuvent se mettre en place et on y va, on part ensemble. Alors modestement, il n'a pas parlé d'une autre pièce qu'il est en train de travailler qui aura lieu vers le 20 janvier, je crois. Vas-y, parle-nous-en parce que ça nous intéresse aussi.
Je vais vous parler d'un texte qui s'appelle Les âmes cimentées, qui est un texte en fait à moi puisque je suis aussi auteur de théâtre, mais j'aime aussi défendre des textes qui ne sont pas les miens et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, au même temps, je défends aussi mon travail. Donc, Les âmes cimentées, c'est un huis clos entre deux ouvriers de bâtiments qui se retrouvent à côté du chantier au moment du déjeuner comme ça, et puis ils commencent une discussion comme ça légère, et puis ils vont de plus en plus profondément l'un dans l'autre. Il y en a un qui est le fils d'un immigré ancien, on va dire ce qu'on appelle ici deuxième génération, et qui souffre puisque son père a quitté ce pays, la France, est revenu pour mourir chez lui. Et comme ça peut être justifié, comme on peut entendre de la part de tous ceux qui viennent vivre ici en France pour travailler et qui pensent à la fin que c'est pas un pays pour mourir quand même, il vaut mieux pour mourir aller mourir chez soi. Donc il y a tous des canaux comme ça intéressants pour voir comment on peut traiter le corps comme ça en activité et le corps après en inertie. Donc oui, je suis arrivé à là, mais je suis parti loin et donc je vais revenir. Donc voilà, il est le fils de cet immigré et le deuxième personnage en fait, Farid, c'est un immigré économique qu'on peut appeler si on veut comme ça, c'est un mot qui existe maintenant. Donc il est venu ici en France en tout cas pour travailler, pour fuir une condition dans son pays de répression, mais en même temps c'est un conservateur, c'est quelqu'un de pratiquant, il a quatre enfants, il respecte beaucoup les traditions, les mœurs. Et ces deux-là, en fait, ils ne se connaissent pas du tout, mais tout d'un coup, puisqu'il y a un, il s'appelle Momo, l'autre, il s'appelle Farid, ils croient qu'ils appartiennent à la même communauté et ils engagent quelque chose, un échange comme ça, qui s'avère à la fin vraiment autre chose de ce qu'on peut penser au départ. Donc je ne veux pas non plus
divulguer. En fait, mais tu nous as mis entre guillemets l'eau à la bouche et s'appeler Farid et Momo dans ces temps-là, il pourrait s'appeler Jean-Pierre et puis Patrick, hein, tout simplement. Voilà, non, rigole.
Avant qu'il arrive. Oui.
Voilà, avant qu'il arrive. Alors là ça me gêne parce qu'il a dit qu'il n'était pas disponible. Florent, il est professeur et il donne des cours à ce soir-là, hein, au lycée. Donc il a écrit un autre texte dont on va parler qui nous permettra de faire une transition avec Gérard qui est situé sur ma gauche, je parle géographiquement, et qui s'appelle La foi, ça j'ai un trou de mémoire, coloniale. La foi coloniale, c'est ça. Ouais, merci les amis. Bah ouais, mais à ton avis, mais pourquoi je te demande de venir, Patrick, c'est pour ça. Donc La foi coloniale, et qui nous permet une transition en fait avec Gérard qui est là pour le guide du Bordeaux colonial et qui va nous parler justement de l'intérêt de la dynamique créée autour de ces deux émissions, puisque comme le disait André Rosweg précédemment, Le capitalisme a deux points communs qu'il ne maîtrise pas ou qu'il crée justement, c'est l'exploitation des ouvriers et le colonialisme. Donc on va voir que avec ce raccourci, on va faire cette transition, et avec la pièce que présentera Florent, aussi au guide du Bordeaux colonial, ça pourrait être intéressant. N'est-ce pas, Gérard ?
C'est sûr. C'est sûr, Jean-Pierre. Oui, en fait, on a un petit peu réfléchi, savoir si on maintenait l'émission hebdomadaire du guide du Bordeaux colonial ou si on essayait de travailler en quinzaine avec une émission avec un contenu, entre guillemets, colonial, et puis une émission, celle que tu es en train de présenter maintenant, Jean-Pierre. Et le choix, ben, ça a été de créer une nouvelle émission. Une émission donc qui aura lieu à partir de 12h15 jusqu'à 13h. Le guide du Bordeaux colonial de 14h à 15h, se maintenant sur la grille et se maintenant également sur un rythme hebdomadaire.
Voilà, donc pour prendre l'exemple de celle des pièces de Florent Viguier, c'est vrai qu'il y a matière à discuter à la fois ici et l'après-midi même sur la continuité de son travail, puisque la foi coloniale, c'est en gros l'histoire du maire de La Rochelle qui a existé, bien sûr, et c'est un dialogue là aussi entre les descendants et puis l'esprit colonial qui existait dans les années 30, qui semblait tout à fait normal en fin de compte aux gens, qui pouvaient être par ailleurs des héros et qui sont d'ailleurs devenus des héros de la résistance et qui pendant plusieurs années ont pratiqué le commerce colonial. Donc ça fait partie de ces contradictions, et la pièce aborde cette question-là, et c'est très intéressant comme réflexion aussi pour déculpabiliser les uns et les autres quand on parle de la colonisation. On n'était pas né il y a 30 ans, hein, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. Voilà, hein, maintenant on parle d'aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant. Alors je pensais que tu allais être un petit peu plus long sur le guide du Bordeaux colonial, Gérard.
Il y a l'émission à 14h.
Elle va traiter de quoi, l'émission de 14h, justement?
Oui, alors ça va être une émission un peu historique.
Il nous pique les... Alors c'est pas possible, les amis, là. Non, c'est pas possible.
On joue la concurrence à l'intérieur de la Clé des Ondes.
Non, parce qu'il y a un livre qui est sorti très récemment et qui parle de l'école aux colonies. Ce livre est une somme de 300 pages, assez long à lire. Et pour les auditeurs, je me suis attaché à le lire très en détail pour essayer de convenablement le résumer et de l'exploiter aussi, parce que vraiment ce livre fait le tour de la question, et c'est une question centrale, c'est une question très importante, très grave. C'est que l'école de la République, pour parler d'elle, hein, même s'il s'agit de l'école aussi avant la République, mais en tout cas l'école de la République est complètement instrumentalisée, dévoyée dans les territoires coloniaux. Elle devrait être, même en métropole, une école émancipatrice. En fait, elle est sur place une école qui fait tout le contraire, une école qui est là pour encadrer, pour réprimer, pour dominer les populations, et elle a joué un rôle assez considérable. On pourrait dire même tout à fait considérable, c'est-à-dire qu'après la conquête, après la violence militaire, l'école prend le relais. Et elle est un agent très efficace de la domination des peuples.
Et même au niveau militaire, il y avait, tu sais, le dictionnaire du parler petit, ce qu'on appelle petit nègre. On apprenait à peine 200 mots, je crois. Hein, c'est ça.
Oui.
Tu en parleras
aussi.
C'est
ça, ouais. Mais de toute façon, assez globale, cette école que les Républicains présentent comme, évidemment, diffusant les idées des Lumières et des droits de l'homme. C'est une école qui cherche à peine à instruire. Elle est surtout là pour dominer.
Voilà, bah merci Gérard. À tout de suite.
Ouais. Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui. Militants, témoins et acteurs du mouvement social, écrivains, chercheurs, artistes, rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Alors, histoire de voir, histoire au pluriel, disait ce jeune homme à la voix si agréable. Eh bien, il y a un autre aspect aussi dans l'émission, ça va être une sorte de micro-baladeur. Je préfère ce terme, un micro du trottoir, parce que bon, même si la lune se reflète dans le caniveau, c'est pas toujours très bienvenu. Donc, un micro-baladeur que j'irai me promener, et d'autres d'ailleurs, s'ils le veulent, dans des manifs ou dans des endroits où des gens se retrouvent, se rencontrent, expriment des choses qui sont pas forcément politiques ou syndicales. Ça peut être aussi une façon de vivre, une façon de revendiquer des espaces de liberté. Et hier, je promenais ce micro Place de la Comédie, où il y avait un rassemblement annuel qui a lieu tous les ans sur la défense du droit à l'avortement, qui est remise en cause un petit peu partout en Hongrie, en Pologne, et si on laisse faire peut-être un jour en France. Donc il y avait quand même un peu de monde, bon, même si c'est relatif, de gens qui étaient là pour dire qu'ils étaient attachés à ce droit. Et j'ai rencontré une militante féministe, je vous laisse, qui va nous toucher un mot du pourquoi elle est là.
On s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder.
Alors je rencontre dans la manifestation pour le droit à l'avortement Claire, qui milite depuis 48 ans maintenant sur ce sujet, et d'autres bien sûr.
Alors moi je suis militante féministe et de tous les combats. Actuellement la situation est très très grave.
Alors explique-nous justement, parce que cette manifestation-là, elle dure depuis un certain temps, tous les ans, je crois.
Alors le droit à l'avortement, il est remis en cause sans arrêt. À savoir que le gouvernement qui a supprimé des milliers de lits à cause de l'Union européenne, maintenant renvoie les soignants qui ne sont pas vaccinés, enfin vide les hôpitaux, et ferme des maternités et en même temps des centres d'IVG. Donc, moi personnellement et d'autres aussi, demandent le rétablissement des centres, des maternités, des IVG, des hôpitaux. Donc ça va ensemble. Le droit à avorter est sans arrêt remis en question. Il n'y a pas suffisamment de personnel, les délais peuvent être trop longs, les femmes sont obligées d'aller ailleurs. Il faut toujours se battre. Et en Pologne, moi je suis universaliste, en Pologne c'est horrible, il y a plein de pays où ce n'est pas encore reconnu. Donc on est toujours là, sans arrêt, pour faire une piqûre de rappel pour le droit à l'IVG, parce qu'il est dans la loi. Mais il y a aussi la clause de conscience qui fait que ce n'est pas une loi, parce qu'il y a la clause de conscience. Donc voilà, on est là, et ça fait 48 ans que je suis là, et je serai là jusqu'au bout.
Et alors justement, tu portes témoignage par ta présence, tu as un cintre, rappelle-nous pourquoi.
Le cintre, c'est parce que les femmes se faisaient avorter avec les tiges des cintres.
Voilà, donc c'est un rappel de cette situation.
De l'avortement clandestin, des morts qu'il y a eu par rapport à ce manque de droits.
Voilà, ben je te remercie beaucoup Claire, et j'espère qu'on va se revoir bientôt, hein. À très vite. Hein. Donc c'est sur La Clé des Ondes, Histoire de Voir, Histoire au pluriel, qui est tous les mercredis maintenant de 12h10 à 13h.
D'accord.
À très vite Claire, au revoir.
Merci.
Alors je dis trottoir, mais tout le monde rigole, mais micro-baladeur qu'on va se balader dans les rues, dans les manifestations, éventuellement rencontrer des gens qui ont des choses à dire, soit sur la lutte en cours, soit sur d'autres luttes qu'ils ont pu mener. Donc ça fait partie aussi de l'émission, cette mémoire, cette participation. Claire hier parlait de ses 48 ans de militantisme. Effectivement, les choses n'arrivent pas. La sécurité sociale, elle n'est pas arrivée comme ça. Hein. C'est qu'il y a eu des luttes et des batailles. Ça y est. Un auditeur nous appelle, donc on est suivi par une personne. Alors justement, oui, j'ai eu peur, hein, parce que là, le directeur de la Clé des Ondes est ravi. Il a une réponse à son questionnaire, on est content. Alors, on n'est pas tout seul sur Terre, et on a des gens autour de nous qui font des choses tout à fait extraordinaires. On en a vu tout à l'heure... Avec Abdulrahman qui nous parlait du travail qu'il fait et travaille avec les différents élèves et auteurs voir ses propres textes. Et puis, il y a des gens qui font des choses tous les ans. Je pense au festival du Mascaret qui a lieu, qui a commencé il y a une semaine. On en reparlera régulièrement. Il y avait une réunion hier. Je voulais faire une interview, mais ce n'était pas possible. Il y avait la manifestation des femmes. Et ils ont des rendez-vous sur toute la Gironde. Donc, on en parlera régulièrement. Et puis, vous savez qu'on intervient aussi autour d'une question, on en a un petit peu moins parlé là depuis le retour de vacances, sur l'avenue Thiers, la dénomination du nom des rues. On a ça en commun avec le guide du Bordeaux colonial et je suppose d'autres amis qui ont signé la pétition qu'on a fait circuler depuis le mois de mai. Et on a été rejoint par l'ARAC. Alors, vous ne connaissez pas l'ARAC, c'est l'Association républicaine des anciens combattants. Eh bien, si, figurez-vous, ça existe. Ce sont des gens qui ont apporté leur soutien à notre démarche de changer le nom de l'avenue Thiers. Et eux-mêmes interviennent, font une exposition, font circuler une exposition sur l'anniversaire de la Commune de Paris, qui est à Bassens, là. Ils ont choisi le quartier de Bassens. Donc, la médiathèque de Bassens accueillera cette exposition. Il y a un film le 29 octobre que je n'ai pas vu, mais c'est un film de Mehdi Lalaoui sur la Commune, avec discussion. Donc, on en reparlera. Et je dois rencontrer le président de l'ARAC, là, M. Régis Safor, qui nous parlera à la fois, nous présentera l'ARAC. Pour certains, ça sera une découverte. Mais ils ont eu un rôle très important, notamment dans l'entre-deux-guerres, après la guerre de 14. Et même encore maintenant, ils luttent contre, à la fois pour la mémoire des soldats, des patriotes, et puis des gens qui récupèrent cette mémoire à leur profit en réécrivant l'histoire de ces guerres que à la fois les colonisés ont subi, mais que les soldats qui étaient embourbés dans cette armée ont aussi subi. Voilà. Donc, des rendez-vous, on en aura. En veux-tu, en voilà, parce qu'on n'a pas, la prétention de répondre à toutes les questions. On va arriver à la fin de notre émission et puis on va vous mettre une chanson avec laquelle on adhère pour beaucoup. Voilà, je vous la laisse découvrir à l'instant.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de
de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.